I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident.
Un bonjour printanier à vous, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Grand Ciel, à vous mes invités du Jardin de Parole. Michel Giroux, votre hôte, vous convie à un voyage dans le temps. Oh, un petit voyage, hein. Nous nous contentons d'aller en 1947, au début de l'après-guerre, pas encore les Trente Glorieuses. Je vous y emmène avec mon père. À l'époque, il suivait une formation pour être gendarme à Melun. Lui, le Dauphinois, qui n'aimait rien tant que grimper dans le Vercors ou en Chartreuse, s'était retrouvé dans une école de gendarmerie près de la Seine. J'imagine qu'il aimait se promener sur ses berges. Qu'a-t-il ramené de Melun ? Oh, pas grand-chose, mais si, des livres. Le droit, des manuels pour apprendre à rédiger des rapports. J'ai donc entre les mains le livre du colonel J. Blanchard, « Les modèles du gendarme ». Grâce à lui, nous allons mener l'enquête. Il ne s'agit pas de vrais rapports, mais de modèles inspirés des rapports de l'époque, de vrais rapports, de faits réels. Les dates, les lieux sont remplacés par des points de suspension pour les étudiants, pour les futurs gendarmes. Alors en route, pour une enquête à la Agatha Christie ou à la Simenon. Qui a tué Madame Doré ? Aujourd'hui, 7 février 1947, nous sous-signés Brechon Henri et Rambaud Louis, gendarmes à la brigade de Romans-sur-Isère, rapportons les opérations suivantes que nous avons effectuées, agissant en uniforme et conformément aux ordres de nos chefs. Ce 7 février 1947, donc, étant à notre caserne, avons été avisés téléphoniquement par les soins de M. le maire de la commune de Mours que la veuve Doré, Julie, domiciliée au hameau de Renard, venait de mourir dans des circonstances qui ne permettaient pas de délivrer le permis d'inhumer. Nous nous sommes rendus immédiatement sur les lieux où se trouvait déjà M. le maire. Je vous ai demandé de venir car le décès de Madame Doré paraît suspect au docteur Bertillon, qui pense qu'il y aurait empoisonnement par du sublimé corrosif. Ce praticien n'a pas voulu quitter la maison avant que j'arrive, afin que rien ne soit touché avant votre enquête. Madame Doré, âgée de 78 ans, vivait seule dans cette petite maison. Elle avait certainement une situation de fortune assez appréciable pour subvenir largement à ses besoins. Je ne lui connais comme parenté que deux nièces, Madame Vallon et Madame Bois. Cette dernière n'avait pas les bonnes grâces de sa tante qui la trouvait trop frivole. Elle ne vivait pas en mauvais termes cependant, mais on disait que Madame Doré l'avait déshéritée en donnant tout par testament à Madame Vallon, qui est une personne très digne et honnête, très économe. Madame Bois aime beaucoup la toilette et dépense son argent à se vêtir. Depuis le départ du médecin, personne n'est entré dans la maison. Je ne vois vraiment pas sur qui devrait peser les soupçons s'il y a eu empoisonnement. Constatation. Madame veuve Doré habitait seule dans une petite maison au hameau du Renard. Son logement se composait d'une cuisine et d'une chambre à coucher. Nous constatons que le corps de Madame Doré repose dans le lit de la chambre à coucher. Les draps sont maculés de traces de vomissements qui paraissent récentes. À terre, nous trouvons également d'autres traces de vomissements. Sur la table de la chambre, un verre est rempli à demi d'un liquide blanchâtre que nous supposons être une potion. Une boîte ovale en carton est proche du verre. Elle porte une étiquette. Pharmacie Denis, faire prendre toutes les 2 heures une cuillerée à café dans un verre d'eau tiède. Nous avons interdit à quiconque d'accéder dans la maison et qu'il soit touché à quoi que ce soit. Dans la cuisine se tient l'une des nièces de la défunte, Madame Vallon, née de Duvaux-Gabriel, fille de Louis et de Cerveau-Pauline, lingère au bourg de péage, qui nous a déclaré. Ma tante Moreau, vivait seule ici. Comme elle n'a pas d'enfant, c'est moi qui venais m'occuper d'elle très souvent. Depuis 2 mois qu'elle était malade, j'étais venue m'installer ici pour la soigner. Aujourd'hui, 7 février, j'avais besoin d'aller jusqu'à la localité voisine pour des achats d'effets divers. Mais il m'était impossible de laisser ma tante seule. Elle était incapable de se lever et toutes les 2 heures, il fallait lui faire prendre une potion. J'ai alors demandé à ma cousine, Bois Sidonie, demeurant à quelques kilomètres d'ici, de vouloir bien venir me remplacer pendant le temps de mon absence, c'est-à-dire pour la matinée. Ma tante n'aimait pas beaucoup ma cousine, Sidonie. Elle n'appréciait pas ses allures frivoles et jamais elle ne la recevait chez elle. Néanmoins, ayant absolument besoin d'aller faire ses achats, il a bien fallu se résoudre à demander à ma cousine de venir, ce qu'elle a accepté avec empressement. Avant mon départ à 7 heures, je lui ai montré comment préparer le médicament à donner toutes les 2 heures. À mon retour à midi, Sidonie m'a dit qu'elle avait donné régulièrement ce remède et que la prochaine distribution devait être effectuée à 13 heures. Après son départ, ma tante m'a dit qu'elle n'avait qu'à se louer de ma cousine qui avait été très gentille et très complaisante avec elle. À 13 heures, j'ai donc procédé comme d'habitude. J'ai pris une cuillère à café, de la poudre de la boîte ovale, je l'ai délayée dans un verre d'eau tiède et ma tante l'a avalée sans difficulté. À 15 heures, j'ai procédé de même. Mais à peine en avait-elle absorbé la moitié qu'elle m'a rendu le verre en disant que c'est amer, ça me brûle, on dirait que tu m'as empoisonné. Je ne savais que répondre et que faire car je n'avais rien fait d'anormal. Ma tante s'est mise immédiatement à vomir, comme vous pouvez le constater, sur les draps et à terre. J'étais affolée devant une telle situation. Je suis sortie sur la route appelant au secours. Le fils Charton passant à bicyclette à ce moment-là, je l'ai envoyé chercher le docteur Bertillon en spécifiant bien qu'en cas d'impossibilité du docteur Bertillon de m'envoyer un autre médecin d'urgence. Le docteur est arrivé à 15h25. Ma tante râlait. Le médecin m'a dit qu'il n'y avait rien à faire et qu'elle allait mourir. Il m'a demandé ce que je lui avais donné, je le lui ai expliqué comme je viens de le faire à vous-même. À ce moment, ma tante rendait le dernier soupir. Le docteur m'a interdit de faire sa toilette funèbre. Il m'a défendu de nettoyer ou de ranger. C'est lui qui a fait prévenir le maire et il est resté dans la chambre jusqu'à l'arrivée de celui-ci. Je ne vois vraiment pas ce qui a pu se produire. Je n'avais aucun autre médicament à ma disposition. Lecture faite, etc., etc. Enquête. Ayant fait demander à madame Bois Sidonie de venir nous trouver chez sa tante, elle s'y est présentée à 17h10. Mise au courant du décès de sa parente, elle s'est évanouie. Revenue à elle et interpellée, elle a déclaré. Ma tante était malade depuis plusieurs mois et c'est ma cousine, Vallon Gabriel, qui était venue vivre avec elle pour la soigner. Ayant des courses urgentes à faire, etc., ma cousine m'a demandé de la remplacer ce matin de 7h à 12h, ce que j'ai fait très volontiers, car nous étions les deux seuls parents de madame Doré. Gabriel m'avait montré comment il fallait préparer un médicament à donner régulièrement, toutes les 2 heures, et je l'ai fait scrupuleusement. Lorsque ma cousine est rentrée à midi, je lui ai indiqué que la prochaine distribution de médicaments devrait avoir lieu à 13h. Pendant le temps où j'ai fait la garde malade, il n'est venu personne. Je ne m'explique pas comment ma tante a pu être indisposée par ce médicament, car il était très simple à préparer. Je vivais en bons termes avec ma tante, j'avais bien remarqué que Gabriel était la préférée, mais vu le grand âge de ma parente, ce sont des travers qui s'excusent. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs, chères auditrices? Qui a tué Madame Doré? Est-ce la gentille nièce ou est-ce la nièce frivole? Écoutons le gendarme Brechon-Henri qui, tel Hercule Poirot ou Jules Maigret, va nous aider à y voir clair. Malgré toutes les recherches effectuées dans la maison, nous n'avons trouvé aucune trace du sublimé corrosif. Le docteur Bertillon, revenu sur place, nous a aidés dans ses recherches. 2 fioles seulement de médicaments ont été découvertes. Au dire du médecin, ce sont des calmants qu'il avait prescrits et ils sont exempts de sublimé. Nous avons saisi ces 2 fioles, ainsi que le verre à demi rempli et la boîte de poudre servant à préparer le médicament. Nous avons fait vérifier les maisons de commerce où Madame Vallon prétendait être allée faire des achats, et ses dires ont été reconnus exacts. À la seule pharmacie de cette localité, où elle est connue, on n'y a pas vu le 7 février. Cette personne est très honorablement appréciée dans toute la région. Madame Bois a la renommée d'être frivole, et ses besoins d'argent seraient assez grands. L'empoisonnement a été provoqué par le médicament servi par Madame Vallon et s'est déclaré, non pas dès le retour de celle-ci, mais à la 2e dose administrée par elle après sa rentrée. À ce moment-là, elle était seule depuis plus de 3 heures avec la malade. Du sublimé corrosif en poudre ou en solution a été mélangé aux médicaments habituels. Personne n'a eu accès dans cette maison de la journée, en dehors des 2 nièces. Le gendarme Crochard s'est longuement entretenu avec Madame Bois. Après avoir évoqué la maladie de Madame Doré, les fatigues encourues par la personne chargée des soins, tenue d'être toujours debout près de la malade, Madame Bois a précisé que cela lui était encore plus pénible qu'à d'autres personnes, car elle a un ulcère variqueux à la jambe droite. Le gendarme lui a fait observer qu'il fallait soigner cette affection et il a appris ainsi que la femme Bois se faisait 3 pansements par jour. Cherchant à connaître en quoi consistaient ces pansements, Madame Bois a répondu que pendant la guerre, elle avait été infirmière bénévole et qu'elle avait pu ainsi se procurer une petite provision de poudre de sublimé corrosif, ce qui lui permet de traiter actuellement son ulcère variqueux. Le gendarme a émis l'idée qu'il n'était pas pratique de se soigner 3 fois par jour lorsqu'on est astreint à s'absenter de son domicile. Cette femme a rétorqué « Depuis plusieurs années que cela dure, je me suis organisée et j'ai toujours sur moi une petite boîte de poudre de sublimé. Il devient alors facile d'en mettre 2 pincées dans de l'eau et d'imbiber la compresse. » Continuant la conversation, le gendarme a appris que pendant son séjour chez sa tante, dans la matinée du 7 février, cette femme avait préparé de la solution de sublimé, humecté la compresse et jeté le reste de la solution afin qu'il n'y ait pas d'erreur. Le gendarme Brechon a fait remarquer qu'il était alors possible que de la poudre de sublimé soit restée adhérente aux doigts de Madame Bois et qu'il aurait pu en tomber des parcelles dans la boîte de poudre à donner toutes les 2 heures. Vu la faible quantité de poison ainsi déposée dans le médicament, cela expliquerait que la première fois où Madame Vallon en a utilisé, elle n'aura pas puisé dans la partie souillée du sublimé et sa tante n'a pas été incommodée. À la 2e préparation de médicaments, Madame Vallon aura dû prélever dans la partie où le sublimé était tombé et sa tante a tout de suite été empoisonnée. Madame Bois a écouté ce raisonnement sans trop le contrecarrer, admettant que cela aurait pu arriver, mais que ce serait tout à fait indépendant de sa volonté. Interpellée à nouveau pour relever ces faits par écrit, Madame Bois a déclaré « Pendant le temps où j'ai remplacé ma cousine ce matin, j'ai eu besoin de refaire le pansement que je porte à ma jambe droite, où j'ai un ulcère variqueux depuis plusieurs années. 3 fois par jour, la compresse doit être humectée avec de la solution de sublimé corrosif. Je porte sur moi une boîte de sublimé dont j'ai une petite provision depuis le temps où j'étais infirmière bénévole pendant la guerre. Il est possible qu'un peu de cette poudre de sublimé soit restée adhérente à mes doigts et elle aura pu tomber dans la boîte de poudre servant à préparer le médicament de ma tante. » Je jure que je n'ai jamais eu l'intention de l'empoisonner. Madame Bois est alors introduite dans la chambre mortuaire. Elle se jette à genoux et elle clame son innocence parmi les sanglots. Nous avons saisi la boîte de poudre de sublimé corrosif que portait Madame Bois. Cette boîte est ronde et très nettement différente, tant par la forme que par le volume, de celle contenant la poudre à potion. Il ne pouvait y avoir aucun risque de les confondre. Nous avons fait connaître à Madame Bois que nous nous trouvions dans l'obligation de procéder à son arrestation. Nous l'avons invitée à se montrer entièrement sincère en lui faisant observer que ses explications n'étaient pas très admissibles et qu'après les excuses présentées devant le cadavre de sa tante, elle se devait d'être sincère jusqu'au bout. Cette femme s'est affaissée en sanglots sur une chaise, puis au bout d'un instant, elle s'est écriée « Je ne puis rien vous cacher ». Eh bien oui, c'est moi qui ai mis volontairement de la poudre de sublimé corrosif dans l'une des extrémités de la boîte du médicament. Je suis la seule responsable de la mort de ma tante. Nous avons là un polar classique à la Agatha Christie ou à la Simenon. Le rédacteur, le colonel Blanchard, précise dans une note que c'est un cas vécu qui reproduit ses déçus. Que ce cas montre que dans ce genre d'enquête, la façon de s'entretenir avec les personnes est un facteur d'importance. Si le gendarme Brechon avait été moins calme, moins désintéressé, la femme Bois n'aurait sûrement pas été aussi loquace. Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous voilà de nouveau bien tranquilles en sécurité dans notre jardin de parole, dans notre studio de Chartres, où Simon, notre technicien, enquête déjà sur nos coquilles, nos mébourdes, pour vous rendre une bonne copie. À bientôt pour une nouvelle Jardin de parole, profitez bien des jardins, des parcs, des bords de l'Eure ou autres rivières. À bientôt !